wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Gomeau, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monseigny. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Adrien Ponté et Florian Guettet. C'est une première pour Adrien Ponté qu'on salue. Bienvenue à lui, à notre affiche ce soir, Dave Heath. L'exposition à découvrir au bal. Ron Amir, quelque part dans le désert, c'est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et puis une exposition d'Anès Geoffrey sera en discussion à la Galerie Maubert. Ce soir, ce sera mon tour pour les coups de cœur. Vous verrez de quoi il s'agit tout à l'heure. Et puis toujours à gagner des cadeaux grâce au jeu de la dispute. Ce soir donc des invitations pour Fortuna, le film de Germinal Rouault qui sort aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute avec un artiste que je ne connaissais pas, Dave Heath, que le bal, précieux lieu d'exposition du 18e arrondissement de Paris, a choisi de mettre en lumière. Diane Dufour est la commissaire de cette exposition scénographiée par Cyril Delhomme. Quelques mots sur Dave Heath, abandonné par ses parents à l'âge de 4 ans. Il a été ballotté d'orphelinat en famille d'accueil. Il a eu comme une révélation à l'âge de 15 ans, explique-t-il en lisant dans Life un texte de Ralph Crane intitulé « Bad Boy's Story » sur un jeune orphelin de Seattle. Et Heath dira plus tard « Je me suis immédiatement reconnu dans cette histoire et j'ai aussi reconnu la photographie comme mon moyen d'expression. » En 52, il a 21 ans, il est envoyé en Corée pour y faire la guerre en tant que mitrailleur. On verra, on voit au rez-de-chaussée du bal les premières photos de Heath qui nous montrent ses camarades soldats. La guerre de Corée, bien sûr, Dave Heath revient aux États-Unis et puis va s'installer dans différentes villes, notamment New York, et continuer sa pratique de la photographie. Et puis il y aura aussi l'édition d'un livre important en 1965, toutes choses dont on va pouvoir continuer à parler, peut-être avec, pour commencer, un premier tour de table, Corinne Rondeau, Dave Heath.
Eh bien, vous ne connaissiez pas, moi non plus. Voilà. Donc, c'est très bien que le bal nous propose cette exposition parce que c'est vraiment une découverte qui n'est pas du tout inintéressante à l'égard de la photographie en soi, on va dire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette photo, cette exposition à cause de sa scénographie, dont on n'attend pas vraiment ce qui va se passer au sous-sol. Le premier niveau, donc, c'est ce qui nous appelle d'abord, c'est une maquette originale du livre
Dialogue with Solitude.
Voilà, de 62, mais qui sera publié en 65, qui n'est pas complet sur le mur, bien sûr. Il manque quelques pages, mais enfin, ça montre, voilà, une organisation du livre sur laquelle il a beaucoup travaillé et dont les Américains de Robert Frank a beaucoup compté, puisque c'est une question de séquence, hein. Comment finalement on peut montrer des images qui racontent une histoire sans avoir besoin de mots, même si dans ce livre, livre-là, il y a des citations qui sont liées à la poésie, puisqu'il y a quelque chose de la poésie, en tout cas du flâneur et du poète qu'il appelle, puisque c'est aussi une citation qu'on retrouve au sous-sol. De Baudelaire notamment. Mais il y a donc cette organisation qui est proposée, et puis il y a vraiment un mur absolument merveilleux, je dirais, sur l'accrochage, sur même la couleur du fond des photographies, qui est absolument admirable, qui sont les photographies de Corée, qui montrent donc des soldats, à la fois de très près quand il s'agit de portraits, et sinon plutôt des paysages ou des soldats plus dans le lointain. Donc il y a un accrochage près loin, enfin, ça crée un rythme qui est très beau sur un fond kaki. Ça, c'est assez merveilleux, je veux dire. Et puis, on a un film, Selman, qui est un des trois films qui est présenté dans l'exposition, un peu inattendu, on va dire, au départ, qui relève, en fait, d'un travail entre la croyance et la marchandise, puisque ce sont des marchands de Bibles qui vont taper, je dirais, chez la classe moyenne américaine.
Porte à porte, vraiment.
Porte à porte. Et on va voir là des gens qui se battent pour avoir aussi leur croûte en vendant la Bible. Alors, j'ai pas trop accroché à cet endroit-là parce que j'étais...
N'étant pas de Davis, en l'occurrence, mais c'est des frères Maisels.
On a trois films qui n'ont rien à voir avec Davis, mais qui relèvent, en fait, de l'époque, on va dire, américaine. C'est-à-dire le moment où d'une grande désillusion américaine.
Et trois petits points, on passe la parole. Le bâton de parole va à Adria.
Petit point.
Ah, petit point.
Petit point, parce que j'avais petit point dans la tête.
Bon, on reviendra vers vous, Adrien Ponté, pour suivre vos premiers regards et impressions sur cette exposition de Dave Heath.
Ben écoutez, pour moi aussi, très belle surprise cette exposition au bal. Photographe Davis, photographe totalement méconnu en France, aux États-Unis non plus. Il semble être un des photographes préférés des photographes, mais bon, dont on n'a jamais vraiment entendu parler. Et c'est une très belle surprise de la rentrée, de le avoir au bal précisément parce que c'est pas véritablement de la photographie documentaire dans un lieu qui est dédié à la photo documentaire. On est dans une photographie qui est tout de même qui touche à la photographie expérimentale. On a affaire à un tireur vraiment hors pair. Bon, il a tiré pour Robert Frank, mais ses propres tirages sont vraiment, moi je trouve absolument saisissants.
Dans l'exposition, il n'y a que des tirages qu'il a lui-même réalisés.
Voilà, ce sont que des vintage, 175 tirages, ce sont que des vintage, des petits formats.
Qui a vraiment son importance là.
Et donc, voilà, on est dans une photographie hybride qui dit quelque chose de la société américaine, qui dit quelque chose de très fort, parce qu'on est à un moment donné de la société américaine qui commence à vaciller. Il y a le début des mouvements pour les droits civiques, les mouvements de libération, etc. Pour autant, on est vraiment dans une photographie profondément intime. Ce qui marque d'abord quand on rentre dans cette exposition, bon, naturellement, ce sont les regards obliques de tous ces personnages et la profondeur qu'il y a dans leur regard et le vide qu'on peut ressentir, ce sentiment de solitude très fort. Donc on est à la fois dans une photographie qui dit quelque chose véritablement de très intéressant sur la photographie, quelque chose qui dit beaucoup aussi sur sa propre condition de photographe, abandonné par ses parents à l'âge de 4 ans, un trauma dont il s'est jamais véritablement remis. Et en fait, sa photographie, on s'en rend compte au fur et à mesure de l'exposition, il a véritablement cherché à combler quelque chose, à faire communauté avec les hommes, il le dit dans une très belle citation, à travers cette photographie-là.
Mais en même temps, s'il cherche à faire communauté, ce qu'on voit, c'est que de la solitude. Pas seulement pour jouer sur le titre, Florian Guettet.
Oui, des solitudes d'ailleurs, hein, il est au pluriel, c'est pas pour rien. Il y a les solitudes.
L'expo du bal, oui. Ouais. Pas le livre.
Non, les solitudes dans le titre. Les solitudes effectivement, ces nouveaux individus contemporains qui se retrouvent esselés, mais à plusieurs. Et ça, c'est vraiment une marque. À quelques années près, c'est ce que va dire en parlant de cette somme de spectateurs qui finalement n'ont plus qui sont focalisés sur le même objet mais qui n'ont plus de relation entre eux, et donc il y a cette forme de d'absorption effectivement de ces sujets là et c'est une fausse solitude parce que il y a quand même ce photographe qui arrive à se faire oublier lui-même. Il y a ce photographe qui est pourtant là, très présent, mais qui est complètement absent à la photographie, mais absent à la scène qu'il est en train de photographier. Moi aussi, c'est une exposition qui m'a fait vraiment très belle impression. C'est la scénographie, on peut peut-être dire deux mots sur ce qui se passe au moins un. Au moins un, on a une sorte de 6 mètres qui sont élevés, un peu comme des pâtés d'immeubles en fait dans des villes, et on ne sait pas en fait à quel voilà au tournant de la 6 mètres sur quoi on va tomber, sur qui on va tomber, etc. Il y a une forme de alors il se réfère effectivement beaucoup à Baudelaire et à la critique un peu presque conservatrice de la modernité de la ville, où il dit mais finalement moi je suis un flâneur comme l'était Baudelaire, je suis un arpenteur, etc. Mais il a une sorte de volonté, pas forcément d'objectivité, mais de vouloir héroïser cette petite quotidienneté, cette sorte de vie ordinaire. Et il y a quelque chose de très effectivement mis en scène parfois. Alors dans le travail de tirage, effectivement, où il va accentuer les contrastes, où il va éclaircir, assombrir, et ça va donner une densité un peu plus forte à l'image. Je pense notamment effectivement en haut dans un portrait d'un jeune soldat qu'on voit en fait sur le seuil d'une tente. Alors il retient d'une main la porte en tissu en fait qui clôt la tente, et lui il est toujours dans ce regard complètement absorbé. Il a à moitié du visage dans la lumière, à moitié du visage dans l'ombre. Il ressemble à Paul Newman. Enfin moi j'ai vraiment vu quelque chose une sorte de héros très hollywoodien, et on a ce même effet de dramatisation en bas, donc dans les séries qui sont faites à Chicago, Philadelphie, New York, avec notamment une scène de crime. On voit une noyade, en fait c'est pas une scène de crime, excusez-moi, c'est une scène de noyade, ouais. Et on voit donc tous les
le champ, le contre champ,
voilà, exactement, et on devine cette hors scène, cette obscène littéralement, qui n'est pas présentée. On voit le policier qui est au milieu, et puis on voit toute la foule des anonymes qui est entre sa pulsion scopique à voir l'horreur, et puis en même temps une forme de protection à se dire après tout on n'est pas concerné.
Mais alors vous dites héroïser, dramatiser, moi c'est bizarre, enfin j'entends bien et c'est tout à fait étayé, c'est à peu près l'inverse que j'ai vu moi. Je trouve que c'est ni héroïser ni dramatiser, je vois des individus, je vois des singularités, je vois des... Bah alors c'est toujours assez compliqué, mais quelqu'un qui essaye de s'approcher au plus près des êtres pour les montrer vraiment dans leur une forme d'intégrité. Donc alors peut-être que j'ai mal compris votre propos.
Non, je pense vraiment à une héroïsation, une héroïsation peut-être du quotidien aussi, mais je maintiens.
Bon, Adrien Ponté, puis Corinne Rondeau ensuite.
Ce qui est vraiment frappant, je trouve, c'est vraiment cette capacité à s'approcher au plus près des visages de ces personnages et de les capter à un moment vraiment rare, je pense, à la fois en photographie, mais aussi en fait, on en sort un petit peu bouleversé parce qu'en fait, ce sont des scènes qu'on voit très peu dans la vie. Alors bien sûr, je pense qu'on pense à la série de Walker Evans dans le métro qu'il prenait dans le petit trou de son manteau, où on voit des individus qui se perdent en eux-mêmes, où on atteint un semblant de profondeur. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus, à mes yeux, de beaucoup plus profond. On reste pas à la surface de ces individus-là. On se pose pas la question de ce à quoi ils pensent, on se demande pas ce à quoi ils sont plongés. À la limite, on s'en fiche un petit peu, mais on a vraiment l'impression d'être pris avec eux. Moi, ça m'a fait quand même une drôle de sensation quand je suis descendu dans la salle du bas et de voir ces séquences-là. Alors, Corinne parlait de la mise en séquence des images. C'est une question très importante pour Davis. Moi, j'ai été frappé par ses propres mises en séquence. On en retrouve trois fois qui sont des triptyques où il isole, en fait, des personnages. Donc, ça vaut avec dans la pièce dans la salle du bas sur la cimaise de gauche, il me semble, quand on rentre, où il y a trois jeunes blacks américains en train de jouer à un jeu de pièces, et il va isoler un individu. Il le fait avec trois gamins blancs autour d'un feu qui est en train de s'éteindre, et pareil là ça reste de face, il va isoler un des gamins, et on va vraiment, il y a vraiment comme ça une espèce de mise en séquence moi je trouve vraiment très intelligente et vraiment très forte dans cet état de retirement, cet état d'absence de soi qui est très forte. Et je regrette peut-être de pas avoir vu que la scénographie est très belle, mais je regrette peut-être qu'il n'y ait pas plus de séquences comme ça qui parlent véritablement. Il y a beaucoup d'images en bas. Moi, peut-être qu'il y a trop d'images et qu'il n'y a pas assez de mise en séquence vraiment forte, quoi.
Corinne Rondeau.
Alors moi, j'ai trouvé que là, en bas, c'était parfait, voyez-vous. Non, alors c'est vrai qu'on retrouve le Washington Square, parce qu'il y a une volonté de remettre la ville avec les cimaises, et moi je trouve que l'accrochage est impeccable, parce qu'il y a cette manière de si vous avez raté que Heath fait des photos qui créent un isolement des individus, même quand ils sont à plusieurs, vous ne pouvez pas le rater dans l'accrochage. C'est-à-dire que l'exposition est faite de telle sorte que vous tournez la tête en permanence. Comme dans une rue où vous allez voir à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il y a là, au croisement. Et je trouve que cette manière de mettre des photographies au bord de certaines cimaises, qui en même temps, il y a un endroit où il y a un regroupement, c'était le café où il allait, où il y avait les poètes de la Beat Generation. Et là, je trouve que il y a une manière de dire, on peut se retrouver, mais même quand il y a Ginsberg et Moraf, ils sont ensemble sur la photo, et il y a une ombre au milieu qui fait qu'ils ne sont pas ensemble. Et même quand les gens se tiennent, même quand les gens s'embrassent, même quand les gens sont à deux, à deux, c'est pire que tout. On est toujours plus seul que seul. Et je trouve que cette manière qu'il a, un, non pas de saisir les gens quand ils sont à l'abandon, parce qu'il est capable de voir le moment où le regard se met en retrait. Et ce retrait, c'est le moment où, en fait, l'être est vulnérable. Et cette vulnérabilité, Is la rend, je dirais, prodigieuse pour le regard. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut voir de gens qu'on ne connaît pas, dont on partage un affect qui est justement la solitude, un retrait de soi-même. Et cette exposition, je trouve que l'accrochage du bas, c'est vraiment une sorte, je veux dire, un gros mot, enfin une forme assez moche, mais c'est un réseau d'affects transitifs. C'est comment vous arrivez à lier le 1, le 2, le 3 et l'innombrable par simplement... justement l'écart. Et il le dit, parce que je trouve que Diane Dufour a fait quelque chose, il suffit de lire le catalogue qui est formidable, il y a juste un entretien et un texte, et dans cet entretien on voit la précision et l'attention avec laquelle elle a regardé l'œuvre de Is pour faire ce qu'elle a fait en bas. C'est-à-dire qu'elle a fait du séquençage, de la séquence sans être dans la copie, et elle a ouvert sur justement la solitude, sur la question du montage Eisenstein, c'est-à-dire l'image qui compte, c'est pas celle qu'on voit, c'est pas celle qui compte le plus, c'est celle qui entre.
Florian Guettet.
Un mot peut-être sur les films, sur les trois films de cinéma indépendant. Corinne a parlé de Salesman tout à l'heure. Il y a aussi un Portrait of Jason de Charlie Clark et The Savage Eye de Ben Maddow aussi, les meilleurs, c'est Joseph Strick. Ce sont, alors, il y a deux façons d'aborder ces films. Soit on ne les voit pas, et alors ils deviennent juste un bruit de fond, comme peut-être la rumeur dans la ville, et ils sont là pour animer. Et bizarrement, ça fait un effet un peu disruptif par rapport à ces visages complètement silencieux qu'on a face à nous. Parce que ce sont vraiment des photos muettes. Et soit on les regarde, et quand on les regarde, eh bien, il y a des jeux comme ça de confrontation assez intéressant, cette sorte de superficialité de la société consommation, donc dans les vendeurs de porte à porte, ou Jason, qui est ce personnage complètement excentrique, homosexuel, noir, fumeur de joint, marginal, hein, vrai marginal, qui lui aussi est dans une sorte de solitude un peu plus exubérante et peut-être un peu plus porteuse de promesses.
Corinne Rondeau, vous lui ajoutez
non, tout petit post-scriptum qui avait été édité par Carlotta. Il faut prendre le temps de le voir. C'est quand même le film le plus incroyable que la génération a fait. Et c'est surtout un film collectif. Ça, il faut pas le négliger. C'est un film qui est terrassant. Terrassant même quand on le revoit.
Bon, j'espère que vous avez donné envie de découvrir Dave Is, parce que vous parliez de retrait. Il y a quand même un mystère total. C'est qu'il a arrêté la photo en 70. Et qu'il a quand même vécu 46 ans après cela. Il est mort il y a deux ans, en 2016. Il est parti enseigner au Canada, à Toronto. Alors peut-être qu'un jour on découvrira qu'il y a des images cachées de Dave Is, mais a priori il s'est arrêté, ce qui est quand même aussi ce qui n'est pas rien dans le
Rimbaud aussi.
Ouais, c'est dans la force de cet homme-là qui avait peut-être pris les images qu'il avait à prendre. En tout cas, voilà, Dave Is, Dialogue with Solitude, c'est jusqu'au 23 décembre au BAL. Le catalogue est coédité par le BAL et Steidl. À suivre dans la dispute, Ron Amir, c'est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Agnès Geoffrey à la galerie Maubert.
Alors, Egon Schiele ?
Alors, vous voulez dire quelque chose, Corinne Rondeau ?
Pas du tout.
Non, vous étiez en train de m'apostropher, je crois, parce que c'est le moment d'un coup de cœur qui, ce soir, tombe sur moi, voyez-vous.
Une grosse art.
Un coup de cœur qui embrasse large, parce que c'est presque pour une ville, Vienne, et pour ses musées, quand même. Je n'avais jamais été à Vienne avant cet été, et je dois dire que je suis tombé sous le charme de la ville, et que les musées, forcément, n'y sont pas pour rien. Donc c'est presque une liste, mais à l'évidence, il faut quand même un certain temps pour goûter pleinement toutes les propositions de la ville. Alors, on peut commencer par le plat de résistance, pourquoi pas, le Kunsthistorisches Museum. Merci de faire les sous-titres, où on verra ceux que vous aimez, les Titiens, les Tintoret, les Véronèses, les Flamands aussi, et bien sûr, Rubens, les Allemands, Cranach, Dürer, et attends, non mais j'y arrive, hein, Vermeer, Rembrandt, Velasquez, Caravage, et on n'oublie pas Bruegel l'Ancien, pour qui j'ai une tendresse particulière, et notamment sa tour de Babel. Bon, il y a le nouveau quartier des musées, je crois que vous ne connaissez pas encore, Corinne Rondeau,
si. Si, je connais. Ah, je connais un peu Vienne.
Oui, je sais, mais parce que j'ai l'impression que c'était un quartier tout neuf, où ils ont réuni deux musées dans les anciennes écuries à Habsbourg. Mais en tout cas, c'est un magnifique endroit. On peut aller au Léopold. En ce moment, forcément, il y a deux expositions en cours qui sont consacrées, l'une à Egon Schiele, l'autre à Gustav Klimt. Même s'ils sont partout à Vienne, là, c'est quand même le centenaire de leur mort, donc à tous deux, 1918. Donc, c'est une façon de la commémorer. Klimt, on ira voir bien sûr la frise Beethoven à la Sécession. Et puis le Baiser ou Salomé, encore mieux, au Belvédère. Et puis l'Albertina, c'est l'autre musée du centre-ville qui propose une très belle exposition temporaire dans son sous-sol consacrée à l'art contemporain. Il y a à peu près personne dans ces immenses galeries consacrées à l'art d'aujourd'hui, avec pas mal d'artistes autrichiens que moi je ne connaissais pas. Et puis une belle expo photo d'Alfred Zeeland au rez-de-chaussée. Aux étages, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il y a tous les chefs-d'œuvre, il y a les Munch, il y a les Chagall, il y a Picasso et bien d'autres, mais qui sont évidemment très bien. Mais le vrai secret de Vienne en ce moment, c'est le jugement dernier de Jérôme Bosch, parce que normalement, vous savez qu'il est à l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts de Vienne est en travaux et donc, le jugement dernier est en dépôt pour 2 ou 3 ans encore au musée du théâtre, tout près de l'Albertina. Et là, il n'y a personne, parce que sans doute que l'information ne passe pas, et ce qui fait que quand j'y suis allé, la personne qui m'accompagnait, moi-même, on est resté à peu près 1 heure seul dans une salle, avec ce triptyque pour nous. Au maximum, on a été 4 dans la salle, à de très rares moments. Non, il n'y a vraiment personne, et évidemment qu'on n'épuise absolument pas la folie de ce tableau, mais on peut vraiment s'approcher toujours plus près et donc découvrir davantage encore de détails. Donc passer un moment quasiment seul avec Jérôme Bosch sans être absolument dérangé.
Non, faut prendre un billet d'avion.
Alors ça dure encore 2 ans, hein, ce prêt ou ce dépôt plus exactement au musée du théâtre, qui a par ailleurs une assez jolie collection, mais qui n'a absolument rien à voir. C'est un mystère. Mais allez voir en tout cas ce jugement dernier, ce triptyque. C'est évident que je pourrais parler de Vienne assez longtemps. Bon, et, comme vous disiez, Corinne Rondeau, allez-y.
Ah oui.
Allez-y.
C'est tellement beau.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Nous avions consacré une dispute il y a 18 mois à peu près au film documentaire d'Avi Moghrabi, Entre les frontières. Je ne sais pas si vous étiez là, Corinne Rondeau.
Non.
C'est un film qui allait à la rencontre de réfugiés qui venaient du Soudan et qui étaient cantonnés en plein désert israélien dans le centre de détention de Holot. Alors, il y avait tout un travail qui était fait avec ces détenus. Enfin, détenu à ciel ouvert, parce qu'il devait quand même, il pouvait se promener la journée, mais il fallait qu'il rentre au centre le soir, donc on peut appeler ça une forme de détention. Il y avait un travail qui était fait sur le modèle du théâtre de l'opprimé pour essayer de leur faire raconter leurs histoires. Si je parle de ce centre de Holot, c'est que ce centre est aujourd'hui fermé. On imagine qu'il y en a d'autres ailleurs, mais qu'il est le sujet d'une série photographique de Ron Amir, intitulée la série Quelque part dans le désert, est actuellement exposé au musée d'art moderne de la ville de Paris. Le commissaire de l'exposition, c'est Noam Gall, et c'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre de la saison France-Israël 2018. Ron Amir au musée d'art moderne de la ville de Paris. Florian Guettet, pour commencer.
Ben moi, c'est une exposition qui me pose un peu problème parce que formellement.
Vous n'êtes pas seul.
Ouais. Non, formellement, je peux trouver des choses qui m'intéressent. La tuerie des rats, l'après-catastrophe, le paysage du peu. Bon. Formellement, je peux m'y retrouver. Dans le projet, je peux même trouver ça sincère de la part de Ron Amir, qui a vraiment passé beaucoup de temps avec ses réfugiés, etc. Mais il y a quand même 2 arguments de l'exposition qu'il me faut évacuer pour pouvoir en parler. La première, c'est la portée critique de ce travail-là. Au-delà du fait qu'il y a ce contexte de l'année France-Israël, mais qui est
difficilement
pas,
de dépasser le contexte quand même,
exactement,
en l'occurrence.
Qui est pas innocent. Et donc la critique, évidemment, elle n'est pas féroce, mais en plus, je trouve qu'elle repose sur une forme de neutralisation du sujet. on va en parler par des choix formels, hein, mais on neutralise finalement l'objet de la critique. Donc c'est un peu bizarre de maintenir ce terme-là. Et puis le deuxième, c'est pour rattraper peut-être le défaut de critique. Il y a un argument qui vise à surestimer la part de créativité humaine qu'on verrait dans ces démonstrations-là, qui sont en fait des paysages quand même rudimentaires, des démonstrations de bricolage d'urgence par des gens qui sont dans une précarité folle. Donc de là à se gargariser, de pouvoir trouver l'élan créatif commun à toute l'humanité, je trouvais que c'était un argument fallacieux et qui est même contre-productif.
Alors peut-être rester sur ce préambule, parce qu'Adrien Ponté a l'air de bouillir sur son fauteuil à côté de vous et a envie de parler lui aussi.
Mais je suis content que Florian commence par la question de la neutralisation de la critique, parce que là je pense qu'on est face à un exemple assez fort, qui commence dès le titre de l'exposition. Cette série, qui est exposée au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, s'appelle Doing Time in Holot. Elle a été renommée.
Ça veut dire, en gros, purger sa peine à Holot. Doing Time, c'est pour les détenus de prison, véritablement.
Exactement. Et ça vaut aussi pour lui, purger sa peine. Enfin, vaut aussi pour lui parce qu'il y a passé beaucoup de temps. Enfin, il y a des liens.
Jeu de mots, mais quand même.
Voilà. Mais donc, il passe par le titre parce que quelque part dans le désert, qu'est-ce qu'on peut faire de...
On chante Jean-Patrick Capdevielle quand on est Corinne Rondeau et moi, mais c'est tout. Pardon.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus neutralisant, si on veut, pour la critique? Donc, ouais. On a très peu. Donc, on commence juste pour donner à voir un petit peu l'exposition. On commence avec On a très peu d'indices de temps et de lieu, donc on sait que c'est à Holot. On sait que le site est désormais fermé. Alors ça, ils le disent. Hein. Ils le disent même plusieurs fois. Ils l'ont répété. L'exposition commence avec un film que j'ai trouvé assez ahurissant d'abord, et qui en fait, au sein de l'économie globale de l'exposition, peut-être que je vais être amené à le défendre un petit peu. Mais ce film consiste en un plan fixe de 22 minutes, il me semble, où on voit notre photographe Ron Amir essayer de photographier un groupe d'Érythréens et de Soudanais qui sont posés sur une voiture avec des packs de Coca-Cola et de je ne sais quelles friandises auxquelles ils n'ont pas accès dans leur centre de détention. Parce que faut quand même rappeler que ces gens-là sont des prisonniers. Hein. On a tendance à l'oublier au sein... de temps en temps, mais et donc on arrive face à ça, et c'est totalement ahurissant parce qu'en fait il est en train d'essayer de faire poser cette dizaine de mecs sur la voiture. Il a son espèce de donc il travaille sur trépied, donc c'est un photographe documentaire qui fait une photographie extrêmement protocolaire. J'ai envie de dire
son droit.
C'est son droit, tout à fait. On y reviendra plus tard. Ouais. À peu près tout est moche, hein. Les couleurs, la profondeur. Moi, je trouve que
ça vous a plu. Mais restez sur le. Pardon, je vous ai fait dévier un peu. Le trépied.
Donc on le voit essayer de faire poser ces gens. Et manifestement, il n'y arrive pas. Donc, il passe son temps à s'excuser, à se remettre son drap au-dessus de son appareil photo, à mettre les cassettes dans son truc, comme si, en fait, il savait pas se servir de son appareil. Enfin, moi, au bout d'un moment, je me suis demandé s'il savait ce qu'il était en train de faire. Et ensuite, on rentre dans l'exposition et on a affaire à ces immenses formats qui constituent ce qu'il a pensé, je pense, comme une espèce d'expérience. C'est-à-dire qu'il a voulu nous faire traverser un désert. C'est le cas. On traverse une forme de désert. Et donc ces photographies immédiatement dans la salle centrale sont autant silencieuses que son film, c'est-à-dire qu'il ne se passe strictement rien. On a uniquement affaire à des traces laissées par ces prisonniers. Et là où je suis très content que Florian parle de c'est l'accent qui est mis sur l'extraordinaire créativité humaine, c'est-à-dire que si c'est ça l'enjeu, si c'est de montrer que même dans des moments les moments les plus effroyables, l'être humain continue de créer, alors si c'est ça un des objets de l'exposition, c'est totalement raté, parce que c'est d'une pauvreté absolue. Ces gens-là sont d'un dénuement, et je trouve ça presque cynique de vouloir parler de l'extraordinaire créativité humaine dans ces cas-là. Je trouve ça assez déplacé.
Corinne Rondeau, premier regard sur Ron Amir.
Il a grandi dans un petit bout, c'est peut-être ça.
Ouais, peut-être.
Alors il y a beaucoup d'expositions sur les réfugiés ou les migrants ou les deux à la fois. Bon, cette exposition ne va pas. Ça, c'est vrai. Alors, on a toujours un peu, oh mon Dieu, c'est quand même des gens qui souffrent. Bon, oui, ce sont des gens qui souffrent. Bon, alors, ça va pas. Enfin, pour moi, ça va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas,
Corinne Rondeau ? Alors, ce qui va pas, c'est que il affirme qu'il veut dénoncer la politique d'immigration de son pays.
Ron Amir.
Très bien, puisque Ron Amir a aussi travaillé dans des camps de Palestiniens. Mmh. Il s'engage avec eux. Alors, Noam Gal, du musée de Jérusalem, qui défend ce travail, dit, bah, il est engagé parce qu'il travaille avec eux, il est avec eux, il leur laisse faire des photos, etc. Bon, on se dit, mais oui, bon, là, il y a plein de gens qui sont engagés. Ça s'appelle pas un photographe engagé. Enfin, et ce qui va pas du tout, c'est que, si vous n'êtes pas informé, vous avez l'impression qu'en fait ils sont où ? Il est où le camp ? C'est quoi le camp ? Parce que si le soir ils retournent au camp, c'est quoi les conditions de leur détention ? Donc, je veux dire, ce hors-champ est un problème. Parce que oui, alors ils sont à l'extérieur, donc oui, effectivement, vous dites, vous avez raison de dire tous les deux, les garçons, Florian et Adrien, que voilà, il y a une grande pauvreté de vouloir annoncer une créativité quelconque. Alors moi, je trouve que cette exposition est une sorte de, comment vous dire, il y a une systématisation. Alors les photographies sont des lieux, c'est la présence des hommes. Il y a cet arbre de Amoir et je sais plus Bisraara où tous les matins ils se retrouvent. Donc oui, les hommes sont dans des ritualisations. Ok. Il y a une manière de refaire du territoire. D'accord. Mais je veux dire. Et après ça, on a des films dans lesquels ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Donc on remet le temps perdu avec des corps qui attendent. Sauf Boutra qui nous raconte en fait ses conditions de détention pendant 13 ans. Ou alors ses photographies où il explique en fait au spectateur ce qu'il va voir. Une manière pour l'artiste de dire je vais vous redonner en fait, je vous redonne la parole et vous allez nous expliquer votre espace. Je veux dire, est-ce que c'est suffisant de vouloir faire, je dirais, une dénonciation d'un système d'immigration ? Ça ne veut rien dire. Pour moi, il y a un vrai problème à la fois sur le projet et sur l'esthétique, je suis d'accord. Je ne sais pas à quelle distance je dois regarder ces images. Parce que autant avec Dave East, il incorporait le flou, autrement dit, la solitude était déjà dans la forme, alors qu'ici, l'idée que ce soit vidé d'une présence ne se suffit pas à elle-même.
Ah, rien à pointer.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que l'exposition formule un pari qu'elle n'arrive pas à tenir. La série consiste à évacuer tout humain. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Mais en fait, il n'y arrive pas. Si on voit l'exposition, non, mais c'est un pari qu'il n'arrive pas à tenir, puisqu'il est obligé, au bout d'un moment, de réintégrer du contexte s'il veut faire sens. S'il ne veut pas qu'on reste comme ça dans cette espèce de traversée du désert ahurissante, il est obligé d'en réintégrer du contexte. Et du coup, il le fait. Il le fait assez bien, en fait. À la fin, à la toute fin de l'exposition, il y a un film d'un migrant soudanais,
Boutra,
qui évoque son parcours migratoire, son parcours administratif en Israël et la dimension totalement dingue en fait de ce que ce mec vit.
Parce qu'ils sont en attente pendant des années, c'est un camp qui est censé être de transit, sauf que le transit dure de nombreuses années.
On aurait bien voulu savoir quand même où vont ces réfugiés après, puisque le camp est fermé par exemple.
Ils vont nulle part, non, c'est bien ça le
problème. Ça aurait dû être dans l'expo quand même, au moins en termes de discours.
On essaye d'universaliser cette thématique en disant après tout, regardez, tous les États-nations aujourd'hui ont le même problème, la même réponse systématique aux réfugiés. Non, c'est pas vrai. Israël a une politique particulière. En mars, quand ils ont fermé ce camp-là, ils ont signé des accords internationaux sur lesquels ils sont revenus pratiquement de suite, qui prévoyaient la moitié en fait des détenus devaient aller dans des pays étrangers. La moitié devait être naturalisée. 20 000 demandes, 5 naturalisations. Donc ça dit bien la volonté d'Israël, qui a ensuite coupé court à toute discussion, du coup qui maintient ces gens-là dans une forme d'attente, effectivement, mais d'incertitude quant à leur devenir. Et même pire, et c'est là où il y a beaucoup de cynisme de la part du gouvernement, elle leur recommande d'aller au Rwanda ou en Ouganda. C'est quand même fort. Donc non, cette universalisation ne va pas, cette absence de figure ne va pas, et puis je trouve ça très contre-productif de dénoncer l'immobilisme d'une situation en poétisant l'immobilité dans laquelle on les maintient.
Oui, parce que là, je crois qu'on revienne en effet, parce qu'on ne fait pas une émission de politique étrangère.
Non, bien sûr,
on était obligé de contextualiser, mais je reviens à cette question que posait, ou cette remarque que faisait Adrien Ponté. Il a besoin de contextualiser. Ben non, d'une part, pas forcément, parce que si ces photos tenaient par elles-mêmes, il n'aurait pas besoin. Il y a d'autres très grands photographes, je pense à Sophie Christelle Weber, il n'y a pas besoin de dire cet endroit qu'elle nous montre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'est-ce qui agit en nous, ben, on saura si on veut et si on se renseigne, savoir dans quelles conditions elle a filmé des lieux de bataille une fois que la bataille est finie. Par exemple, c'est un exemple qui me vient là, tout bête mais tout simple, qui éclaire les choses. Il y a un problème de la, on va dire, plastique dans son travail.
Il y a même des choix. Moi, je parlais des vidéos, par exemple, sur Boutra. On parlait de Boutra tout à l'heure.
Oui, mais les vidéos sont un problème par rapport à ça.
Il y a une vidéo, effectivement, où on donne enfin la parole à un réfugié. Donc, où il explique 13 ans d'errance entre le Soudan, le Sinaï, l'Égypte et Israël. Et puis, il y a une deuxième vidéo, beaucoup plus concise, où on fait parler Boutra à travers les photos de Ron Amir. Ce qui est quand même assez étonnant, hein, pour le moins étonnant, mais même un peu prétentieux, parce que du coup on a l'impression que Ron Amir a vocation à redonner une identité à ces gens qui n'en ont pas, qui d'ailleurs pour la moitié du temps ne sont appelés par leur prénom et pas sans nom de famille.
Alors aussi, moi je me suis demandé si effectivement on n'aurait pas pu projeter en marge de cette exposition le film d'Abim Moghrabi dont je parlais tout à l'heure. Alors j'ai pas trouvé trace que ce soit le cas pendant la durée de l'exposition. Peut-être que lui, Abim Moghrabi, il n'a pas voulu s'inscrire dans cette saison France-Israël. C'est possible aussi. Enfin, il n'a pas voulu être instrumentalisé. Mais c'est ça qui est compliqué aussi. Je sais, moi qui reviens sur la politique, alors que vous avez dit qu'il fallait en sortir, Corinne Rondeau.
Oui, on peut regarder le CV de l'artiste. Dans le catalogue, c'est marqué. Bon, il a fait quasiment aucune exposition dehors d'Israël. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'un artiste israélien qui veut montrer quelque chose d'une dimension politique d'Israël sur les camps, mais après coup. C'est-à-dire, il y a quelque chose de cette volonté de ne pas montrer le camp de détention qui est l'architecture de la politique d'immigration. Et c'est ça qui est incroyable de mon point de vue, que cet artiste qui s'est engagé ne soit pas dans le camp et hors du camp. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans le chemin que font... Alors par contre, je me suis dit, peut-être qu'il a plus que la neutralité suisse, ce jeune artiste israélien. C'est peut-être quelqu'un qui dit, finalement, je suis dans l'impuissance absolue. Il n'y a rien à faire, je suis perdue dans le désert avec eux. Mais si c'est ça, il faut qu'il arrête de faire la photo. Et moi, je trouve que par contre, ce Don't Move, est complètement raté. Ce film me paraît être une galéjade, un truc fait exprès, à la fois avec humour et en même temps... difficulté d'être face à des gens dont il ne pourra jamais être le compagnon, en fait. Parce qu'il se cache derrière sa chambre, parce que cette manière de bouger, c'est impensable que pendant 20 minutes, un professionnel de la photo soit incapable de faire une photographie de gens qui bougent. Enfin, ça me paraît inconcevable. D'autant que si j'ai vécu avec eux pendant plusieurs années, je sais comment ils bougent, justement. Enfin, tout ça me paraît... Et je viens faire des photos alors que ces gens ne cessent d'exposer leur corps et que être un corps, c'est justement être vu, être montré, et que le job d'un photographe, c'est aussi de montrer ces corps qui s'exposent, je dirais, où se trouve la question et du dialogue politique, et où se trouve la question de la souffrance ou de la douleur des corps. Je ne comprends pas.
Adrien Ponté.
Oui, mais je pense que ce film... Après coup, en ressortant de l'exposition, je me suis dit que c'était peut-être un aveu de faiblesse. Peut-être qu'en fait, tout le ridicule qu'il y avait dans ce film-là cherchait qu'à nous dire qu'au fond, il est profondément impuissant. Et qu'il est là, il est un de ses acteurs. Bon, c'est un peu pour essayer de le sauver un petit peu que je dis ça, parce que...
On entend bien,
plus,
oui.
Florian avait raison au début en disant « je crois qu'il y a une sincérité ». Je crois que cet artiste en plus est sincère, vraiment.
Adrien,
et je pense
continuer.
Que le problème de ce film, c'est que il est à la fois incapable d'introduire ce qu'il va nous montrer à part le silence et dans sa démarche, enfin, je veux dire dans l'aspect ridicule qu'il a, il y a plusieurs interprétations possibles et aucune ne va, j'ai l'impression.
Pour finir, Florian Guettet.
Ce qui est drôle, et c'est évidemment contre son gré, mais c'est que c'est presque une image de l'expérience d'exposition qu'on s'apprête à vivre en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'on se retrouve otage, où on doit se placer. Par exemple, les vidéos, il y a très peu d'endroits où s'asseoir, etc. Donc on se retrouve aussi dans une forme d'effort. L'expo, je trouve, s'arrête très très brutalement, comme une impasse. Alors, on s'attend pas du tout à ça. Donc de
tous
les côtés,
travaux, hein, vous savez.
Ouais, de tous les côtés, on se sent à la fois intrus et otage. Donc pour ça, moi, je me senti assez mal à l'aise en sortant, en fait.
Bon.
Et c'est dommage, parce que ça aurait été la forme de l'expo. Il aurait assumé cette impasse. Ce qui est malheureusement, tous les discours en plus ne sont pas là pour aider ça.
Allez voir par vous-même. Ron Amir, quelque part dans le désert, c'est jusqu'au 2 décembre au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Il y a un catalogue qui est édité pour l'occasion par les éditions Paris Musée.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et le dernier sujet au sommaire de cette dispute art plastique, c'est une exposition en galerie, celle d'Agnès Geoffrey à la galerie Maubert, rue Saint-Gilles, à Paris. Agnès Geoffrey est née en 1973, elle est diplômée des Beaux-Arts de Lyon et de Paris. Elle a été pensionnaire à la Villa Médicis, elle a été exposée dans de nombreuses institutions en France et à l'étranger. En ce moment d'ailleurs, on peut voir son travail à la Maison Rouge, dans l'exposition L'Envol, mais aussi au Point du Jour, à Cherbourg, en Cotentin, qui lui consacre une exposition personnelle, et donc aussi à la Galerie Maubert à Paris. Je le dis à chaque fois, mais les galeries sont quand même des lieux formidable pour découvrir l'art de notre temps. C'est gratuit, c'est un accès libre. N'ayez pas peur de pousser les portes des galeries. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette galerie Maubert, en l'occurrence Adrien Ponté?
Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette galerie? On peut voir beaucoup de travaux en cours d'Agnès Geoffrey. Et c'est assez intéressant de voir le work in progress de cet artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps au Point du Jour pour cette exposition Incidental Gesture, il me semble. Qui m'avait plu, qui était une exposition qu'elle avait faite avec Emil Senwald, qui est un critique d'art, qui faisait des incises dans ses photographies retouchées. C'était loin d'être, enfin, à mes yeux, loin d'être convaincant, mais j'avais été particulièrement touché par une de ses séries qui s'appelle Incidental Gesture, où elle réhabilite certaines figures victimaires, notamment en retouchant des images d'archives. Alors, dans cette expo-là, à la Galerie Maubert, on conserve les grands thèmes de prédilection d'Agnès Geoffrey, que sont la question du suspens, la question de la mise en suspens, la question du langage, de l'écriture et la question du corps et de sa contorsion, on pourrait dire.
Formellement, qu'est-ce que ça donne comme image? Qu'est-ce qu'on voit?
Qu'est-ce qu'on voit? Ça commence de manière assez âpre, je dois le dire. Ça commence par une série de pièces à conviction. Donc, il y en a une originale qui est assez compliquée. En fait, ce sont des pièces à conviction. La première est un mot écrit par un braqueur de banque qui l'a glissé dans la caisse de la caissière d'une banque en lui disant en gros tais-toi et remplis le sac. En gros, elle est partie de ça, elle en a elle-même fait plusieurs, des fausses pièces à conviction, dans l'idée de questionner comment au fond l'énoncé impératif suppose une forme de mise en action. Ça ne veut pas dire qu'il suppose d'adhérer à ce qui est dit, qu'il suppose au moins une mise en action, une résistance ou une mise en action. Pas du tout convaincu par cette entrée d'exposition. Ça donne. Voilà, je trouve que c'est très compliqué quand même comme question. Ça, voilà, c'est une complexité qui est pas. On s'en défait pas facilement, mais par contre, on descend. Et là, on a affaire à beaucoup de ces travaux dans lesquels elle mobilise la photographie. Donc, elle photographie pas elle-même, elle glane des photographies qu'elle achète, etc., et qu'elle va retoucher. Et là, pour moi, ça devient beaucoup plus intéressant. J'ai des très belles découvertes. On y voit deux séries de diapositives qui sont très longues, où j'y reviendrai plus tard, mais où c'est la question de la chorégraphie du corps. C'est la question, au fond, elle a essayé d'interroger la question de la discipline des corps. Comment le corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps contraint et comment il en arrive à sa contorsion pour arriver à sa figure finale. Donc elle va mobiliser tout un tas de langages, tout un tas de registres différents qui sont autant en fait de digressions autour de cette question de la contorsion, de la soumission, de la résistance des corps et son lien avec le langage.
Corinne Rondeau, poursuivre sur Agnès Geoffrey.
Alors oui, moi j'avais vu aussi l'exposition à Cherbourg au Point du Jour et j'avais été très 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 séduite par une certaine contention de la violence. Le suspens était très prenant, on va dire, pour moi. Et là, effectivement, dans l'exposition, alors ceux qui ont fait le point du jour, ils ont intérêt plutôt à aller voir Florent Maubert, la galerie, parce que là, d'un coup, il y a quelque chose du corps qui s'exprime avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de rondeur, même, on va dire. Non pas que ce ne soit pas contraint, non pas qu'il n'y ait pas de, je veux dire, un travail très organisé, parce que c'est quelqu'un à la fois qui est simple et qui contrôle beaucoup. Donc, en fait, on a des séries de photographies. On a des séries qui s'appellent les impassibles, où en fait vous avez des postures de en général c'est une personne seule, ou alors des mains qui se tiennent comme si on allait faire tourner les tables, ou alors des mains qui sont tenues par un fil qui crée des nœuds. Donc en fait on est dans des relations. Alors ça, je trouve qu'il y a la première, alors vous n'êtes pas pour les pièces à conviction, que moi j'ai bien aimé à cause de la structure en fait, une écriture qui presse un papier avec des mots, un papier déchiré, n'importe lequel en l'occurrence c'est Agnès Geoffrey, mais qui vient être déposé sur ensuite une surface plane. Il y a quelque chose d'une superposition que j'aime beaucoup et qui joue avec une des impassibles, qui est une femme debout avec deux mains sur un cadre noir, un rectangle noir dans la photo. Et il y a une manière d'être dans la découpe et en même temps dans le hors-champ que je fais apparaître dans un champ total. Et ça, j'aime bien cette manière de mêler à la fois le dehors et le dedans. Et je trouve que au-dessous, effectivement, on a plus de mouvement. D'abord, il y a un film, il y a une vidéo. Ensuite, il y a deux carousels qui est plein. Hein, je veux dire, donc entre l'esquive qui est un jeu de cannes à la française, mais dont moi j'ai relevé absolument toutes les lignes des cannes qui font en fait une vraie partition chorégraphique de mouvement de corps. Si on enlève les joueurs de cannes, on va dire. Et puis, moi je suis toujours sidérée par quelque chose du travail de Agnès Geoffrey que j'avais vu déjà, et c'est ça qui m'intéresse, et elle est tout à fait consciente de ça, je pense, c'est la question de l'intervalle. Parce que ces diapositives, alors c'est le dispositif même de la diapositive, vous avez toujours un noir, quelque chose qui interrompt en fait le mouvement. Et je trouve qu'elle est exactement à cet endroit. Tout le motif, je veux dire, qui m'intéresse dans son travail, c'est ce qui manque. Et j'aime ce travail à cause de la conscience du manque qu'il y a dans le travail. Alors je trouve que là, il y a une dimension expérimentale beaucoup plus grande sur le corps que ce que je n'ai vu au point du jour, qui me paraissait déjà une clôture à son propre travail. Et là donc en fait, moi j'attends l'après de cette exposition qui me semble être manière de se libérer de quelque chose à travers le corps, même s'il y a toujours une très très grande tenue du travail plastique.
Florian Guettet, à présent sur Agnès Geoffrey à la Galerie Maubert.
Oui Corinne, vous parlez des interstices, des intermédiaires ou de ces lieux un peu transitoires. Effectivement, Agnès Geoffrey, elle a une façon très particulière de laisser, par exemple dans cette pièce chorégraphie, donc, qui est une sorte de répertoire de gestes, qu'on pourrait rattacher à celui de Nathalie Nissik, ou Anne Movie d'Yvonne Reiner, sont juste des gestes comme ça de mains digitaux qui présentent une potence, des gestes d'autorité ou des gestes de bienveillance. Et en fait, elle, entre deux gestes, elle laisse l'image qui mène d'un geste à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez discret, hein, d'assez subtil, mais qui pourtant fait toute son importance, parce qu'en fait, l'étage du bas montre comment le corps signe peut venir prendre la relève du mot signe, puisqu'il y a vraiment ces deux éléments-là, etc. Elle-même est une taiseuse, elle dit qu'elle a quelque chose un peu de retenue, qu'elle n'arrive pas à exprimer, et le geste vient performer la parole. Et précisément, les mots, entre deux mots, il y a quoi ? Il y a du blanc, quoi. Il y a du blanc, il y a un saut, il y a une rupture. Entre deux gestes, il y a encore du geste. Entre deux gestes, il y a encore une métamorphose de corps. Et c'est cette plasticité du signe-là qui est très, 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 très forte, et en même temps très, très simple, quoi, dans l'esthétique d'Agnès Geoffrey. Ça me renvoie en tout cas cette forme de performativité à la vidéo qui a donné son titre à l'exposition, Battling with the Wind, où on voit un danseur exécuter, reprendre des postures de traumatisés de guerre après la Première Guerre mondiale, en prenant pour modèle un documentaire qui était fait par un British Pathé en 1920, des années 20. Où on voit précisément une sorte de somatisation des traumatismes de ces soldats-là qui n'arrivent plus à ouvrir les yeux tellement le réel leur paraît insupportable, qui n'arrivent plus à avancer. Et tout ça est présenté donc dans des petites séquences qui sont au nom avec des noms qu'on dirait poétiques, mais qui sont en fait les noms des maladies en eux-mêmes. Et c'est ce rapport presque pathologique au réel qui ressort petit à petit de cette esthétique-là et qui nous rappelle que Agnès Geoffrey elle a peur d'avoir les yeux crevés. C'est une de ses angoisses, pas pour rien en fait, parce qu'elle a eu un oncle qui a enlevé les globes oculaires d'une femme, et puis elle a une mère qui a une dégénérescence maculaire aussi. Donc elle a ce rapport presque angoissé au réel et au visuel, qui est pas du tout un rapport serein et apaisé. Et moi, elle m'a rappelé deux artistes qu'on a vu l'année dernière, qui sont Anne Collier et Hélène Delprat, et je trouve qu'elle navigue un petit peu entre les deux. Elle prend aussi à Anne Collier quelque chose de l'ordre du document sur document et de comment la représentation peut ou non résister au réel. Et chez Hélène Delprat, une sorte de jouer à se faire peur, de jouer avec le macabre, avec le sordide, pour là encore amadouer ce rapport un peu pathologique ou angoissé au réel.
Ah, vous en voyez des choses dans ces photos d'Agnès Geoffrey, se dire qu'il y en a. Adrien Ponté, encore quelques mots.
J'ai beaucoup aimé le film Battling with the Wind. Florian en a parlé. Il y a quand même une série qui est assez époustouflante. Je trouve que c'est la série Contorsion, des photographies encadrées qu'il y a dans la salle du bas, où on voit, donc c'est de la photo de découpe, c'est une photo rafale qui est découpée, donc à la manière de Edward Muybridge, le photographe britannique, qui découpait les mouvements des athlètes. Si vous n'avez pas jamais vu ça, c'est...
Vous voulez révéliser avec l'accent anglais de Corinne Rondeau, je crois.
Oui.
Muybridge,
vous voulez dire ? Muybridge.
Il n'est pas américain ?
Non, il est britannique, je crois.
Britannique.
Ouais.
Bon.
Et donc, elle découpe le mouvement d'une trapéziste. Donc, on n'a plus le trapèze sur la photo. Donc, au début, on ne saisit pas nécessairement. Et toute la contorsion de son corps pour arriver au geste parfait. Et donc, de la même manière que dans ces diapositives de gestes, il n'y a pas de silence entre chacun des gestes, il y a toujours du mouvement. De la même manière, il y a tous ces mouvements qui sont les uns après les autres pour arriver au geste parfait. Et ça dit quelque chose de la contorsion des corps, et ça dit quelque chose de la discipline. Agnès Geoffrey va chercher dans cette exposition des espèces de moments de grâce, là précisément où il y a énormément de souffrance.
Edward Muybridge... né à Londres, il est britannique, il est né le 8 mai 1904, c'est pas moi, c'est Wikipédia pour soutenir Adrien Ponté.
Merci.
C'est bon.
Un dernier mot, Florian Guettet.
Oui, juste, toujours dans ces stratégies d'utiliser la photographie pour domestiquer finalement le réel, il y a quand même cette indécision que je trouve particulièrement porteuse quand elle est maintenue dans son irrésolution, c'est entre le choix entre la photo documentaire ou la photo scientifique, et on voit effectivement toute cette réutilisation des codes de la mesure, de la médecine légale, de la médecine judiciaire, etc. Et de l'autre côté, la photographie illusionniste. Et c'est vrai qu'on a cette contorsionniste qui arriverait presque dans une morgue. Et ça nous donne une sorte de double esthétique assez fascinante sur laquelle on ne sait pas trop quel pied danser, mais qu'en tout cas, on reçoit avec plaisir.
Vous n'êtes pas d'accord, Corinne Rondeau ?
Non, il y en a beaucoup, je trouve. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la manière dont elle peut réorganiser le schéma corporel, dans la manière dont elle fait trembler quelqu'un sur une image. Et je trouve que la mise en série, des séquences qu'elle propose, c'est vraiment, elle est en train, pour moi, par rapport à Cherbourg, elle est vraiment en train de chercher à réorganiser quelque chose du corps. C'est ça que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle évite toute la dimension fétichiste, et elle évite aussi, je crois, un certain enfermement sur l'image passée, de toute la dimension de traumatisme sur laquelle elle a beaucoup travaillé, et qu'elle travaille encore, évidemment.
Alors, l'exposition de Cherbourg, elle se poursuit jusqu'au 30 septembre, une bonne dizaine de jours encore, mais l'exposition, donc, qui a pour titre Battling with the Wind, exposition d'Agnès Geoffrey, elle est visible jusqu'au 28 octobre à la galerie Maubert, c'est rue Saint-Gilles,
oui.
À Paris. Nous concluons l'émission avec la séquence de jeu de la dispute et Sarah Dion qui nous a rejoint pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir.
La question était: quel célèbre photojournaliste et professeur de Dave Heath a beaucoup influencé son travail à la fin des années 60?
La réponse était
William Eugene Smith.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour Fortuna, le film de Germinal Roux, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question ?
Quel prix a reçu le film Fortuna à l'occasion de la dernière Berlinale ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. C'est sur lequel vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast. Demain à 19h, une dispute consacrée à la littérature. Nous serons avec Elisabeth Franck Dumas, Elisabeth Philippe et Laurent Nunez. À notre sommaire, Le Monarque des Ombres de Javier Cercas, paru chez Actes Sud. Par les écrans du monde de Fanny Taillandier au Seuil. Le Sillon de Valérie Manteau au Tripode. Et puis le coup de cœur d'Elisabeth Franck Dumas pour Bas la place, y a personne de Dolores Prato chez Verdier.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Des animaux et des hommes, un livre d'Alain Finkielkraut. À partir de son émission Réplique et en compagnie de ses invités, Alain Finkielkraut nous propose une réflexion sur la cause animale et la place des bêtes dans notre société.
Quand un coin du voile est levé sur l'invivable existence des poules, des vaches ou des cochons, la question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ?
Des animaux et des hommes, une coédition France Culture.
Et votre soirée sur France Culture à 21h, Marie Richeux, on fera coin-coin aussi, mais avec Bruno Dumont pour parler temps qui court. Et Bruno Dumont viendra parler de cette saison 2 du Petit Quinquin qui s'appelle Coin-coin et les Inhumains. Avant cela, à 20h55, la création d'Eau de la Vigne avec Yacine DeVos, auteur de bande dessinée. Et puis 20h30, ce sera déjà le troisième épisode du nouveau feuilleton des fictions de France Culture, Cercle Sauvage d'Anne Sibran, réalisé par Laure Egoroff. Tout de suite, on retrouve à voix nue.